Bonsoir, faut-il armer les policiers municipaux? Proposition phare d'un rapport remis à Matignon à la une des informés de France Info ce soir. Les avis restent partagés sur la question. Et pourtant, la menace terroriste persiste. Selon une note de police que révèle le Figaro, les déséquilibrés seraient surreprésentés parmi les assaillants et ce serait une tendance lourde. L'eurodéputé écologiste Karima Delli gazé lors d'une évacuation musclée des opposants à la future au cadre de Strasbourg. Vous entendrez tout à l'heure la colère de José Bové. Édouard Philippe cherche la bagarre. Le Premier ministre l'a dit devant les troupes de La République En Marche. Mais une bagarre politique, pacifique, ça fleure bon. La campagne des européennes. Enfin, Ouigo qui fête ses 5 ans. C'est le TGV low cost qui partira désormais de la gare de Lyon. S'agit-il d'un tournant pour cette SNCF à peine réformée? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue Marion Mourgue.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique de notre partenaire Le Figaro. À mes côtés également Driss Aït Youssef. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit, président de l'Institut Léonard de Vinci et spécialiste de la sécurité globale. À vos côtés, bonsoir à vous et bienvenue Aurélie Trouvé. Vous êtes porte-parole d'ATTAC, je le rappelle, hein, c'est l'organisation alter mondialiste. Et la présence ce soir, bienvenue Bruno Cotresse, ravi de vous retrouver, chercheur CNRS au CEVIPOF, je le rappelle, le centre de recherche de la vie politique de Sciences Po, où vous enseignez également. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Alors c'est l'ancien patron du RAID hein, qui le dit dans un rapport remis en fin de journée au Premier ministre à Matignon. Les polices municipales et la sécurité privée, selon lui, doivent monter en puissance de façon à recentrer les policiers et les gendarmes sur leur cœur de métier. On va y venir. Le tout dans un contexte évidemment de menace terroriste. Jean-Michel Fauvergue, devenu député de La République En Marche de Seine-et-Marne, et sa collègue Alice Toureau de la Drôme propose tout simplement d'armer tous les policiers municipaux de France. Pas forcément d'accord, le maire Europe Écologie Les Verts d'Arcueil, près de Paris, hein, Christian Métairie, il était l'invité de France Info ce matin.
Pour nous, l'objectif c'est de rendre la sécurité du quotidien auprès de nos habitants, appliquer la police du maire, comme on dit de façon un peu simpliste, c'est assurer les questions de stationnement, contrôle du stationnement, contrôle de la propreté, et il me semble, mais c'est la politique de la municipalité, qu'il faut que l'État et la police nationale jouent son rôle. Et
à chacun son travail.
À chacun son travail, voilà.
Driss Aït Youssef, il a raison, le maire d'Arcueil.
Oui, alors c'est une question, c'est vrai, qui est une question avant tout politique, parce que ce rapport remis par ces deux députés est un rapport sur le continuum de la sécurité. C'est quoi? C'est finalement là où s'arrêtent, j'ai envie de dire, les forces de sécurité publique et où commence la police municipale et les acteurs de sécurité privée. Dans tout ça, vous avez la police municipale. La police municipale est déjà armée aujourd'hui. Aujourd'hui, 84% des policiers municipaux sur les 21 000 policiers municipaux en France sont armés. 44 sont armés d'une arme létale.
Oui.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit.
44%. Hein.
44%. Oui. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que aujourd'hui, le maire, c'est pas simplement le maire qui fait la demande, c'est-à-dire que le conseil municipal, c'est une décision qui est avant tout politique, et aujourd'hui, d'armer une police municipale, ça a un coût. C'est un coût qui est relativement important, donc qui peut être répercuté aussi sur les impôts locaux. Et donc, pour armer une police municipale, il faut déjà les acheter, il faut les stocker, il faut que les polices puissent se former, ça veut dire utiliser un certain nombre de cartouches par an. Donc,
vous voulez dire que les policiers municipaux ne sont pas forcément formés à l'utilisation des armes létales, enfin des pistolets
Ceux qui n'ont pas d'armes létales ne sont par conséquent pas formés. Et puis quand vous dotez les policiers municipaux d'une arme létale, dite létale, donc qui tue, il faut tout un tas de dispositions autour. Donc des
contrôles. Vous êtes sceptique, Driss Aït Youssef, ce soir vous êtes un spécialiste des questions de sécurité, vous paraissez sceptique?
Ça existe déjà. Après, c'est vraiment une question de moyens et c'est une question de volonté politique. Encore une fois, c'est pas le maire qui demande seul au préfet l'autorisation d'armer sa police municipale. C'est un débat en conseil municipal.
Aurélie Trouvé d'Attaque, que dites-vous de cette montée en puissance possible hein, des polices municipales qui seraient toutes armées? Au fond, ce serait la règle, l'exception, ce serait de ne pas les armer.
Oui, ben moi je reprends les propos du maire d'Arcueil, mais aussi celui de Clermont-Ferrand, qui dit qu'en fait il s'agirait de pallier au manquement de l'État. C'est-à-dire que la police municipale a un rôle aujourd'hui important de dialogue, de résolution des conflits, et que en fait le port de l'arme change la nature des rapports. Et ça, il y a des politologues qui ont travaillé dessus sur cette question-là, ou des sociologues. C'est-à-dire que
vous voyez une arrière-pensée, c'est ça l'idée.
Alors, c'est-à-dire que la course au revolver et au sécuritaire ne va certainement pas faire abaisser les tensions actuelles entre les habitants et la police, et que le rôle de la police municipale dans ce cadre-là est très important. Et l'autre point, c'est que en fait, ça va dans le sens de la politique actuelle d'Emmanuel Macron, qui vise à donner de plus en plus de charges aux communes sans le transfert de moyens budgétaires et financiers. Ça sera à nouveau une charge supplémentaire budgétaire, financière, juridique, sans en fait, sans qu'il n'y ait les moyens derrière.
Marion Mourgue, vous partagez le point de vue d'Aurélie Trouvé-Data, qu'il y aurait une forme d'arrière-pensée, on arme les policiers municipaux et on enlève peut-être des effectifs de police nationale ou de gendarmerie?
Je pense qu'il faut quand même regarder le contexte. Vous l'avez rappelé, on est dans un contexte de forte menace terroriste. Donc, il faut aussi en tenir compte et former les polices pour qu'elles soient prêtes. Alors, en effet, il faut un transfert. S'il y a un transfert de compétences, il faut un transfert de ressources. Mais aujourd'hui, le rapport propose que, sauf décision motivée du maire, donc il peut encore refuser, eh bien, on inverse la règle qui fait que, avant, les polices municipales n'étaient pas armée spontanément, j'ai envie de dire. Donc là, c'est juste une inversion de la règle, mais c'était déjà, vous l'avez rappelé aussi, c'est plus de 80%.
Comme,
donc,
oui, comme
les c'est pas un changement fondamental. Quoi.
Bruno Cotteresse, vous pensez qu'il n'y a pas de changement sociétal en vue? Au fond, c'est un mouvement qui est déjà enclenché?
Sans doute que la tendance sécuritaire est un mouvement d'importance et un mouvement qui est enclenché depuis un bon moment. On voit dans les enquêtes d'opinion que jamais en France, les forces de police, de sécurité n'ont eu une telle confiance de la part des Français, que ce soit la police, l'armée, la gendarmerie disposent d'un très haut niveau de confiance. On voit par ailleurs que dans l'ensemble de l'opinion, toutes les questions qui sont relatives à la sécurité sont des enjeux qui concernent au premier chef les Français. Donc on voit qu'effectivement, le gouvernement essaye sans doute à moyen constant, ou même à moyen peut-être diminuant plutôt que constant, de trouver une solution pratique et de se retourner. On voit toutes les contradictions, vous le soulignez effectivement, de donner à la police municipale des missions qui relèvent dans l'imaginaire des Français quand même globalement de la police nationale et de la formation des policiers nationaux. Donc ça posera immanquablement la question des moyens et de la formation des policiers municipaux.
Alors, nous restons sur les questions de sécurité dans un instant. 20h10 sur France Info, nous poursuivrons sur le thème après le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Alexandre Benalla n'a pas à décider lui-même s'il doit venir ou ne pas venir. Philippe Bas, le président de la commission d'enquête, a réagi vivement sur France Info après que l'ancien garde du corps du président de la République a déclaré qu'il refusait de s'expliquer devant les sénateurs avant la fin de l'enquête judiciaire qu'il vise. Les parlementaires reprennent les auditions demain pour tenter d'éclaircir cette affaire qui secoue l'Élysée. Un rapport remis aujourd'hui au gouvernement préconise de rallonger le congé paternité à 2 voire 3 semaines, alors qu'il n'est que de 11 jours. Actuellement, l'idée serait aussi de le rendre obligatoire. 70% des pères prennent ce congé. Une quarantaine de pompiers toujours à pied d'œuvre pour éteindre un impressionnant incendie à Chamonix au niveau de la gare du téléphérique et des Grands Montées. Des moyens sont acheminés par hélicoptère et plus lentement sur les pistes. Le manque d'eau sur place complique le travail des pompiers. L'état d'urgence décrété dans 4 états américains en attendant l'ouragan Florence. La Virginie, la Caroline du Nord et du Sud et dernièrement l'état de Washington. L'ouragan placé en catégorie 4 sur 5 devrait toucher les côtes américaines jeudi. Plus d'un million de personnes ont été évacuées. Et puis 17 ans après les attentats du 11 septembre, Donald Trump s'est rendu à Shanksville pour rendre hommage aux héros du vol 93. Ce vol devait s'écraser sur Washington, mais ses passagers s'étaient rebellés contre les terroristes provoquant son crash au milieu d'un champ.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Oui, Claire Flochel, rappelait à l'instant cette date symbolique, évidemment, du 11 septembre 2001. Les terroristes sont-ils des déséquilibrés? La question est posée par une note confidentielle de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste que s'est procuré le Figaro, selon ses policiers spécialisés. Eh bien, l'analyse des actes commis, tentés, déjoués depuis janvier 2015 montre que les individus présentant des troubles psychologiques, eh bien, seraient surreprésentés. La tendance lourde serait aujourd'hui le passage à l'acte de la part de ces individus manifestement instables. Pour lancer le débat, si vous l'acceptez, voici deux témoins de l'attaque au couteau, je le rappelle, perpétrée dimanche soir sur le bord du canal de l'Ourcq par un ressortissant afghan qui a blessé, je le rappelle, 7 personnes, dont 4 grièvement, avant d'être maîtrisé par des passants.
J'ai identifié ça comme un fou assez rapidement. J'ai pas senti une attaque terroriste, en fait. J'y ai pas pensé.
C'est un drogué que je vois toujours. Il traîne dans le quartier avec tout ce qui traîne là.
Driss Aït Youssef, que dit en fait cette note confidentielle? On peut parler de déséquilibre de ces assaillants?
Il n'y a pas que cette notion de déséquilibre, même si elle existe. Et j'ai tout de suite en mémoire Lawesh Boulel, qui est l'auteur de l'attentat à Nice le 14 juillet. C'était un individu dont on a dit au départ qu'il se revendiquait d'une organisation. Il y a eu un communiqué de cette organisation terroriste.
86 morts et des centaines de blessés.
86 morts. Oui. Et donc, il n'a pas été établi aujourd'hui que cet individu avait une appartenance à cette organisation terroriste, ni même qu'il fréquentait les mosquées. En revanche, il y a eu un certain nombre de rapports ou d'éléments qui tendaient en tout cas à démontrer que cet individu présentait de graves troubles psychiatriques. Donc oui, c'est représenté, surreprésenté, comme un autre rapport de L'UCLAT indique que la moyenne d'âge des terroristes en France est 27 ans, et comme il y a d'autres rapports qui indiquent aujourd'hui que les terroristes, en tout cas ceux qui passent à l'acte, ce sont des individus qui ont un passé judiciaire important.
Et à quel moment cela devient un acte purement terroriste? Marion Mourgue, c'est le Figaro qui révèle cette note assez étonnante. À quel moment finalement on est terroriste ou on est simplement, pardonnez-moi l'expression, un déséquilibré?
Je ne sais pas si tous ceux qui passent à l'acte n'ont pas quand même un problème, un déséquilibre, parce que sinon on ne passerait pas à l'acte et on n'irait pas assassiner X personnes. Donc de toute façon, il y a déjà ce problème-là. La note montre aussi que 6% de la population est dit en état de déséquilibre fort, voire 30% avec un problème plus dépressif. Donc ça montre que le phénomène est répandu. Pas sûr qu'on ait mis tous les moyens à un moment, et là ça se transforme en problème de société. Donc il faut aussi que les pouvoirs publics prennent ça en considération, y compris pour le traiter avec les moyens, puisqu'on voit que les hôpitaux n'ont plus vraiment d'unité psychiatrique.
Aurélie Trouvé, vous y voyez également un problème de santé publique, mais quand même il y a une vague terroriste qui sévit dans le monde entier, et notamment en France.
Du coup, ça me permet de rebondir sur vos propos, sur la question des hôpitaux et de la prise en charge d'un énorme problème de santé publique, la prise en charge des troubles psychiatriques, des maladies psychiatriques. Aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques sont dans un état lamentable, par manque de moyens financiers humains, encore une fois, parce qu'on y applique l'austérité budgétaire, alors que ce sont des droits humains fondamentaux de pouvoir être accompagné, d'avoir un service public de la santé performant.
Il y a quand même une dimension terroriste de tout ce qui a été accompli.
Oui, alors déjà, je finis là-dessus quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnels qui sont, y compris, qui font des grèves de la faim, qui sont dans, qui n'en peuvent plus, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus prendre en charge correctement des personnes qui devraient être prises en charge sur le plan psychiatrique. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Et l'autre point, je trouve qui est intéressant ici, c'est que ça, je trouve que ça démonte toute la stigmatisation qui a été faite des musulmans, de l'islam dans ces questions de terrorisme. On voit ici que c'est des phénomènes très complexes. Et je me permets de renvoyer à un article très intéressant du Monde diplomatique de Laurent Bonelli et de Fabien Carrier, qui est très intéressant, fait à partir de toute une étude, et qui montre que ce sont des phénomènes sociaux
sur le premier
très complexes. Voilà.
Justement, faute de moyens, et ça rejoint aussi le deuxième point, c'est que ces malades se retrouvent souvent en prison. On sait qu'il y a une surpopulation carcérale. Ceux qui, finalement, on ne sait pas trop où les mettre, se retrouvent en prison. Et là, on sait que ça se transforme en bombe humaine dès qu'ils sortent.
Bruno Cotteresse, vrai sujet d'angoisse, d'inquiétude pour la société française, au fond?
Oui, très clairement. Et je trouve à ce moment-là extrêmement intéressant qu'on ait à la fois des données qui commencent à être disponibles, car rien n'est pire dans ce type de problème et dans ce type de domaine que de laisser aller l'imaginaire dans toutes les directions où il peut aller. Et Dieu sait si on peut aller dans de très nombreuses directions de ce point de vue-là. Donc de produire de ce point de vue-là des évidences empiriques, des données, me paraît tout à fait essentiel. Et il me paraît non moins essentiel que le pouvoir produise un discours à partir de ces données. Il est bien dans son rôle, le pouvoir politique, d'éclairer le citoyen en posant des mots sur les réalités, d'éclairer le citoyen, de simplifier, c'est une des fonctions du discours politique, mais justement, le risque est grand d'avoir des simplifications abusives.
Attention
dans ce domaine-là.
Aux simplifications,
mais bien sûr.
Ça, oui.
Mais bien sûr. Ouais. Donc je trouve intéressant qu'on commence à avoir des données et surtout que le pouvoir commence à produire un discours sur ces données, de nous expliquer à nous les Français. Quelle est l'origine de ces problèmes? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi une telle proportion de déséquilibrés? Et comment on va lutter contre ça?
Driss Said Youssef, c'est possible de déterminer les choses de façon relativement précise?
Il y a des études scientifiques, hein, c'est tout récemment qu'on est en train d'intégrer dans des équipes pluridisciplinaires, des chercheurs et d'autres professionnels de la santé, mais pour donner en tout cas du sens à cet article du Figaro, à ce moment on se parle, il y a un procès actuellement au tribunal de deux individus qui ont tenté en juin 2016 donc de commettre un attentat, et l'un de ces individus qui a été appréhendé à la gare de Carcassonne en juin 2016 avec un couteau et une masse est un individu donc qui présente de graves troubles psychiatriques et qui a tenté de quitter le territoire pour aller en Syrie, il est actuellement jugé.
Est-ce que vous diriez, Driss Said Youssef, qu'il y aurait un effet libératoire sur des esprits, on va dire fragiles, hein, pour employer des mots prudents, de la propagande de Daesh et d'une médiatisation accrue?
Ah bah absolument, ça, j'ai trouvé le dossier du Figaro assez intéressant de ce point de vue.
Mais c'est ce que dit le dossier du Figaro, effectivement.
Et, tout à fait, et je pense qu'il y a, c'est la raison pour laquelle le gouvernement, quand le ministre de l'Éducation tente de lutter contre les thèses obscurantistes, complotistes, ça fait partie justement de lutter contre les esprits faibles et de donner à une génération, à une jeune génération montant, tous les éléments pour pouvoir se forger une opinion libre mais solide. Et donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons une génération aussi de décrocheurs et qui ne fait pas forcément la part des choses et qui se laisse emporter par justement des sites internet de propagande djihadiste et autres.
Bruno Cotterêts, il y aurait donc des pistes à explorer concernant la propagande et de toutes ses formes et la médiatisation également.
Bien sûr, puisque c'est un des outils au fond du terrorisme qui est la propagande, la peur, c'est vraiment le vecteur même, je dirais l'objectif même, il est justement que nous soyons en train d'en parler d'une certaine manière. Et donc c'est bien évidemment de ce côté-là qu'il faut mener un combat, qui est un combat à la fois sur dire où est le problème, l'origine du problème, poser un discours. Et je trouve que nos gouvernants sont tout à fait dans leur rôle en le faisant et qu'il est même d'une certaine manière assez urgent d'expliquer tout ceci.
En tout cas, il faut saluer ce soir le courage des personnes qui ont volé au secours des victimes dimanche soir et qui sont intervenues pour faire cesser les exactions de cette personne qui a porté ses coups de couteau. 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Près d'un an après le référendum jugé illégal en Catalogne, près d'un million d'indépendantistes ont manifesté à Barcelone pour célébrer la Diada, la fête nationale catalane. Une journée de commémoration en souvenir du siège de Barcelone en 1714, mais devenue depuis quelques années l'espace de revendication des organisations indépendantistes. Le déficit public révisé à la hausse pour l'an prochain en France, il devrait atteindre 2,8% du produit intérieur brut contre 2,6% cette année, en raison notamment d'une croissance économique plus faible que prévu. Un homme grièvement blessé par balle cet après-midi dans le 3e arrondissement de Marseille. Son pronostic vital est engagé. La piste du règlement de compte est privilégiée. Depuis le début de l'année, les règlements de compte dans les Bouches-du-Rhône ont fait 17 victimes contre 14 pour toute l'année 2017. Véronique Sanson annule ses concerts prévus au mois de novembre pour soigner une tumeur. Une tumeur qui a été détectée très récemment selon l'annonce de son producteur. La chanteuse de 69 ans devrait être en mesure de reprendre la scène à partir du 30 novembre. Et puis en football, une troisième Coupe d'Europe pourrait voir le jour en 2021. La commission des compétitions de l'UEFA donne son accord. Cette nouvelle Coupe réunirait les petits clubs moins cotés. Décision définitive du comité exécutif attendue en décembre.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Vous avez sans doute vu ces images étonnantes de cette intervention survenue hier soir. 500 gendarmes qui avaient ordre d'évacuer la ZAD, la zone à défendre de Kolbsheim, une zone de résistance emblématique des opposants au projet autoroutier du grand contournement ouest de Strasbourg. Parmi les manifestants, deux députés européens écologistes, Karim Adeli, gazé en pleine figure, et son collègue à ses côtés, José Bové, qui raconte.
Karima Adeli a pris le jet en pleine figure et alors qu'il l'avait identifiée en tant que députée européenne. Et là, elle s'est retrouvée allongée, sans plus pouvoir bouger, tétanisée. Et on a été obligé pendant 20 minutes de lui procurer des premiers secours. Moi, je ne comprends pas pourquoi les forces de l'ordre ont agi de cette manière-là. Ce n'est pas les hommes que je mets en cause. Mais j'ai envie de dire au préfet d'Alsace, regardez ce que vous êtes en train de faire. Alors qu'on est pour le dialogue, alors on est pour la discussion. Donc moi, je suis à la fois en colère et puis, je dirais, écœuré. Ce n'est pas normal de faire ça.
Aurélie Trouvé, quel regard la porte-parole d'Attaque porte-t-elle sur cette situation ?
Avec Karima Deli, mais pas seulement, avec toutes les personnes qui se sont fait gazer à cette occasion et à d'autres occasions, en défendant notamment l'arrêt de ces grands projets inutiles et imposés. Et moi, pour moi, ça prouve une chose, c'est que le macronisme n'est pas compatible avec l'écologie. C'est quand même un dossier, ça. Il y a eu plusieurs résultats d'enquêtes publiques qui montraient que cette autoroute, ce projet autoroutier, hein, de contournement autoroutier à Strasbourg, allait contre la conservation des espaces agricoles, contre la biodiversité, allait augmenter le trafic autoroutier et polluer davantage l'atmosphère. Et malgré ça, il y a une commission dans laquelle l'État était décisif qui a promulgué le début des travaux. Alors évidemment avec des profits financiers, de ceux de Vinci notamment, mais justement il y a un moment donné il faut prendre des décisions courageuses.
Alors Karina Deli, je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, a interpellé sur Twitter le successeur de Nicolas Hulot. Je lis, hein, cher François de Rugy, voilà l'occasion de faire tes premiers pas de ministre de l'écologie, fais cesser ce projet inutile et anti-planète, etc. Marion Mourgue, des élus européens ainsi au fond face aux forces de l'ordre, est-ce qu'ils sont à leur place au fond?
Il y a plusieurs choses. C'est sûr que c'est compliqué pour le gouvernement, une semaine, voire 15 jours après l'épisode Hulot, d'avoir les écologistes, et on sait que François de Rugy fait partie à la base des écologistes, qui sont gazés. Donc c'est sûr que le message politique est un peu compliqué. Par contre, est-ce que c'est défendable aussi qu'il y ait des zones comme ça, ce qu'on appelle les ZAD, qui soient envahies et après où les gens restent pendant des mois? Sachant que la trêve hivernale arrive bientôt, j'imagine que le préfet s'est dit il faut nettoyer ça rapidement.
Posons la question au docteur en droit Driss Aït Youssef, est-ce que ces ZAD sont acceptables sur le territoire national?
Elles sont acceptables d'un point de vue peut-être politique, mais peut-être pas forcément d'un point de vue juridique. À partir du moment où une décision administrative est prise avec un permis de construire, par exemple déposer une autorisation octroyée à une société, le préfet a le droit de réquisitionner la force publique pour faire évacuer la zone. Il y a aujourd'hui, on vit quand même dans un pays qui reste quand même malgré tout une vraie démocratie, où il y a des instances de recours, c'est-à-dire le tribunal administratif que n'importe quel citoyen peut saisir pour déposer un recours contre un projet qui pourrait juger, qui pourrait être dangereux pour l'environnement, etc., avec des voies de recours, etc. Donc j'essaie toujours d'opérer une juste conciliation entre, c'est vrai, la nécessité d'exprimer politiquement son point de vue, et puis aussi la démocratie qui repose sur un gouvernement, sur un président élu, et aussi, on l'a vu dans d'autres dossiers, des élus qui font voter dans une assemblée délibérante des décisions, et toute la difficulté, après, si on peut plus monter de projet parce qu'on a toujours des contestataires, voilà, ce qui n'enlève rien à cet acte que je trouve horrible. On gaspille pas des élus et même des citoyens pacifiques,
Bruno Cotterès, le départ de Nicolas Hulot, selon vous, est-ce qu'il acte une forme d'impuissance, d'impasse au niveau gouvernemental sur ces questions écologiques, comme le rappelait Aurélie Trouvé? Est-ce que au fond il va radicaliser quelque part le combat écologique sur le terrain?
Ce qui est intéressant d'abord sur la première question que vous posez, Nicolas Hulot a lui-même posé le diagnostic et a eu des mots qui sont assez durs le jour où il est parti du gouvernement sur le constat d'échec qu'il dressait lui-même de l'impossible action qui avait été la sienne, et il déclarait au moment de sa passation de pouvoir avec François de Rugy qu'il n'était pas arrivé à faire combiner et converger l'économie et l'écologie. Donc c'est lui-même qui a tressé ce portrait d'échec. Mais au-delà de ça, on voit que tout ceci arrive dans un contexte un peu particulier. C'est non seulement le départ de Nicolas Hulot, mais c'est en toile de fond une partie de la bataille des élections européennes qui est en train de se jouer, parce que sur la question de l'écologie, de l'environnement, c'est toujours une élection sur laquelle un certain nombre d'électeurs sont très sensibles. Et on a une liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot va en être la tête de liste, il est une personnalité bien identifiée par les Français sur ces questions-là, et on voit que sur la question de qui est légitime, qui est bien dans son rôle pour défendre les questions de l'environnement et de l'écologie. Il y a déjà une bataille très, très, très engagée.
Ouais.
Et on commence à avoir des escarmouches sur cette bataille. On est clairement là dans un... Si je le prends simplement sur le plan politique, on est clairement déjà dans ce jeu-là.
Et elle a déjà commencé cette bataille. Justement, on parlera de la bagarre souhaitée par Édouard Philippe, bagarre politique, dit-il. Nous évoquerons l'affaire Benalla et l'arrivée des Ouigo au cœur de Paris, qui n'est pas qu'une seule annonce, on va dire, économique. Vous le verrez, ça sera tout de suite après la météo et le rappel de l'info, le retour des informés sur France Info.
Des monuments français à sauver, des millions d'euros à gagner. Ce vendredi, Super Loto Mission Patrimoine avec jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Mercedes-Benz.
Mesdames, messieurs, nous faisons face à un alignement d'étoiles exceptionnel. Un phénomène rare.
Mais professeur, aurons-nous les bonnes conditions pour les observer?
Vous aurez les meilleures conditions. Et pour les observer, vous n'aurez pas besoin de lever les yeux au ciel.
Du 10 au 20 septembre, Mercedes-Benz aligne ses plus beaux modèles durant les Star Days. 10 jours pour profiter de la boîte automatique offerte sur toute la gamme. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Une dégradation pour demain de la Bretagne vers le Nord-Pas-de-Calais. Ce sera souvent gris, parfois avec quelques gouttes. Entre les Pyrénées, le Massif central, la Méditerranée, les Alpes et le sud du Jura, ce sera souvent ensoleillé le matin, mais on aura déjà des nuages entre les Pyrénées et le Languedoc. Ils s'imposeront l'après-midi avec des averses, des orages. Et puis entre les deux, ça sera plus agréable. Encore un beau soleil, juste un petit peu blanchi par des nuages élevés entre le centre et le nord du Jura. Il fera seulement 10 degrés à Metz le matin, 13 à Caen, 16 à Paris et Agen, 17 à Lyon, 21 degrés du côté de Nice. L'après-midi, seulement 17 à 23 degrés près de la Manche, mais encore 26 à 32 degrés ailleurs. 27 à Paris, 30 à Bordeaux et Ajaccio, 31 à Lyon et 32 à Mulhouse.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
– 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
– Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. L'État veut donner un coup de pouce aux infrastructures de transport avec une hausse de 46% des dépenses sur le quinquennat. L'accent sera mis sur l'entretien des réseaux existants, le désenclavement des villes moyennes et les trains intercités. L'enveloppe atteint ainsi 13,4 milliards d'euros sur la période 2018-2022. C'est plus de 4 milliards supplémentaires par rapport à 2013-2017. Jean-Claude Mas, définitivement condamné à 4 ans de prison ferme pour ses prothèses mammaires défectueuses implantées chez des dizaines de milliers de femmes à travers le monde. Le fondateur de la société varoise PIP va devoir purger sa peine après le rejet aujourd'hui de son pourvoi en cassation. Le Parlement européen pourrait demander demain l'ouverture d'une procédure de sanction contre la Hongrie pour manquement répété aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. Pendant ce temps-là, son Premier ministre Viktor Orban s'est invité à Strasbourg où il s'est défendu avec véhémence en ne répondant pas aux accusations, mais en se posant en défenseur de l'honneur de son pays. Reportage Anya Vogel.
C'est devenu une habitude. Chaque fois que le Parlement européen se penche sur la situation en Hongrie, Viktor Orban s'invite au débat. Devant les menaces de déclencher l'article 7 en raison d'un risque de violation grave des valeurs de l'Union, il a affiché sa colère face à ce qu'il qualifie de chantage.
Ce rapport bafoue l'honneur de la Hongrie et du peuple hongrois. Vous pensez mieux savoir ce qui convient au peuple hongrois que les Hongrois eux-mêmes. Nous ne céderons pas au chantage. La Hongrie défendra ses frontières et elle défendra ses droits, y compris contre vous, s'il le faut.
Atteinte à l'état de droit, corruption, mauvais traitement des migrants, dans l'hémicycle, les présidents de commissions et de groupes politiques ont multiplié les accusations à l'image du vert Philippe Lambert.
Non, monsieur Orban, ni le népotisme et l'abus des fonds européens, ni les violations des libertés académiques et religieuses, ni l'asphyxie des médias et des ONG, ni la mise au pas du pouvoir judiciaire ne sont compatibles avec les valeurs européennes.
Avant de lancer un appel aux élus du groupe PPE, dont Viktor Orban est membre, et qui reçoivent le Premier ministre hongrois à huis clos ce soir, pour qu'ils adoptent une position ferme, comme ils l'avaient fait à l'époque pour Jörg Haider. Strasbourg, Anya Vogel, France Info.
150 des 400 vols Ryanair prévus demain au départ et à destination de l'Allemagne devraient être supprimés. Les pilotes et le personnel commercial de la compagnie low cost sont en grève. La direction de Ryanair, elle menace son personnel allemand de suppression d'emplois en cas de débrayage demain. Et puis des bruits de bottes en Russie, près de 300 000 hommes, toutes les composantes de l'armée impliquées, des soldats chinois en soutien, la Russie qui a lancé les plus vastes manœuvres militaires de son histoire. L'OTAN dénonce la répétition d'un conflit de grande ampleur. 20h33, les informés, ça continue.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info à la radio, à la télé et sur le net, évidemment, avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, Driss Aït Youssef, docteur en droit, président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité globale, avec Aurélie Trouvé, la porte-parole d'Attaque, et avec Bruno Cotres, chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Alors, Premier ministre et boxeur, Édouard Philippe a voulu se montrer combatif en cette rentrée compliquée devant les parlementaires La République En Marche, réunis en séminaire à Tours. Extrait.
Cette année, mes amis, va être une année de bagarre. De bagarre politique et pacifique. Mais de bagarre. Avec une échéance majeure, pas uniquement pour nous, mais pour l'avenir de plus de 400 millions d'Européens.
La bagarre, c'est une chanson de Johnny Hallyday, si mon souvenir est bon. Marion Bourg, qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration, la bagarre ?
Il faut le remettre dans la perspective de son discours. C'est-à-dire qu'il répond, pendant le discours devant les députés, à toutes les critiques qui sont faites et il essaye de remettre en perspective le quinquennat en disant c'est une transformation et c'est on marche sur nos deux jambes. Donc il y a un petit mot pour les journalistes, un petit mot pour l'opposition. Voilà, chacun a sa réponse, entre guillemets. Et donc il annonce aussi la suite du quinquennat en disant non, les réformes ne vont pas s'arrêter et il va y avoir l'élection européenne qui est, oui, une bagarre. Et on sait bien que est en train de se jouer derrière l'opposition avec les Républicains, voire la constitution d'une autre liste de droite.
Aurélie Trouvé, vous sentez ce parfum de combat politique, on va dire, qui approche, hein, avec ces élections européennes qui se profilent, qui sont loin quand même. C'est l'année prochaine.
Oui, moi, quand il parle de bagarre, je pense et j'espère qu'il y aura des bagarres du côté des mouvements sociaux qui soient efficaces, parce que vu ce qui se profile... excusez-moi de revenir à la politique nationale déjà, mais il se profile une loi sur les retraites quand même fondamentale.
Il est question éminemment de politique nationale dans son discours.
Oui, hein. Tout à fait. Et par exemple, il parle d'une France de la solidarité réelle dans son discours que j'ai en partie écouté. Enfin, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer quand même, parce qu'il vient de faire, il vient faire plusieurs milliards de cadeaux aux plus riches. Hein. La moitié des baisses d'impôts qui vont aux 10% les plus riches, hein, c'est les calculs qui ont été faits sur les décisions budgétaires de 2018. Hein. Une loi, il parle de France, de l'émancipation, avec une loi travail qui vient de restreindre quand même drastiquement les droits des travailleurs, qui s'attaque aux droits du travail, à la représentation des travailleurs dans l'entreprise. Donc, et en plus, il nous parle dans son discours de sa fameuse loi sur la fraude fiscale, qui est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Hein. Ils vont en faire plein. Ils vont nous servir ce discours-là dans les semaines à venir.
Vous dites quoi, hein, insuffisante? On va essayer d'accélérer un peu. Vous dites quoi, insuffisante, la loi sur la fraude fiscale?
Tout à fait insuffisante et qui s'attaque pas au principal, c'est-à-dire à l'optimisation fiscale agressive des multinationales, qui est l'essentiel de l'évasion fiscale.
Alors, voilà. Driss Aït Youssef, Édouard Philippe a critiqué, je le cite, un tourbillon de l'actualité. On l'évoquait à l'instant, des rumeurs, des petites phrases, des polémiques, des dépêches. Vous le vivez comme tel, vous-même. À qui la faute, tout ça, finalement?
Je pense que c'est exactement ça, le sujet. C'est-à-dire que la rentrée est très difficile. Le président de la République et le gouvernement sont de moins en moins populaires dans les sondages. D'ailleurs, on le voit bien. Et il y a aussi des parlementaires qui doutent, qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, des tout jeunes en politique. Et donc, ça doute. Et donc, il y a nécessité absolue de les réunir et de leur dire, voilà ce qui a été accompli, voilà ce que nous allons faire. Finalement, les remettre en perspective par rapport au combat politique qui arrive. Donc, c'est on va dire, une initiative très normale du Premier ministre.
Vous sentez une sorte de vague de doute dans les rangs de La République En Marche. Bruno Cotterêts et Driss Ayitou Sèf.
Aussi chez les militants. Chez les députés et aussi chez les militants.
Vous évoquiez à l'instant, Driss Ayitou Sèf, les sondages. Alors, je cite l'Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale. Cette popularité d'Emmanuel Macron qui a dégringolé de 12 points durant l'été, alors que celle de Nicolas Hulot s'est envolée de 13% après sa démission. Donc 7 Français sur 10 désormais ont une opinion négative. Bruno Cotterêts, est-ce qu'on doit se fier à ces sondages? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette rentrée du président de la République?
Ils nous disent qu'il y a un tournant qui est sans aucun doute, qui a déjà été pris peut-être, ou en tout cas qui est en train d'être pris sur l'image d'Emmanuel Macron. Et là où l'affaire Benalla n'est pas une affaire complètement indolore,
on va y venir,
qu'elle a eu des effets sur l'image d'Emmanuel Macron. Ça nous dit également que, sans aucun doute, la première période pour Emmanuel Macron, qui est celle qui donne le sentiment d'un jeune réformateur à qui tout réussit, est sans aucun doute un peu derrière lui aujourd'hui. Aujourd'hui, il rentre dans une nouvelle période. Je crois que ça n'est pas nécessairement Emmanuel Macron, c'est tout pouvoir exécutif qui a été élu depuis un an et demi, rencontre ses premières difficultés forcément. Oui. Les erreurs de communication, les erreurs de casting, donc une sorte de spirale un peu inéluctable de difficultés qui arrive pour Emmanuel Macron. Et on voit très clairement, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, sous l'aspect des questions ouvertes, où on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent au fond, est-ce qu'ils ont confiance en Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils pensent de lui. Et on voit depuis plusieurs mois que lorsque les gens ont des opinions positives sur Emmanuel Macron, ces opinions positives ont un répertoire qui est relativement limité. Il est constamment loué son projet, sur le fait qu'il a jusqu'au bout de ses idées, qu'il porte son projet. Le charisme,
c'est toujours valable,
par contre, les opinions négatives deviennent beaucoup plus diversifiées. Elles sont pas seulement sur les choix de politique d'Emmanuel Macron, elles sont sur son incarnation de la fonction présidentielle. La verticalité, le fait qu'il donne le sentiment de ne pas écouter, de vouloir avoir toujours raison, qu'il surjoue le rôle du président.
Tout le début du discours du Premier ministre est justement sur ça, sur le tourbillon médiatique, les chaînes d'information, en disant aussi aux députés, essayez de prendre du recul parce qu'on est en train de faire et on va l'expliquer. La seule chose, c'est que en temps de campagne, généralement, les politiques sont très contents d'avoir les chaînes d'information et ils sont plus critiques quand ils sont, au pouvoir et quand les sondages sont...
Ça se joue à deux, l'affaire. Ça se joue à deux, l'idée de dire c'est le bruit médiatique, mais le bruit médiatique, en même temps, il participe à l'alimenter, bien sûr.
Et puis, on sent bien qu'il est beaucoup plus nuancé que le président de la République, qui, lui, n'hésite pas à s'attaquer directement aux journalistes, alors que Édouard Philippe le fait de manière beaucoup plus subliminale.
Allez, 20h, on va poursuivre sur cette idée. On va d'ailleurs évoquer l'affaire Benalla dans un instant. 20h40 sur France Info. Le retour de l'info avec vous, Claire Fauchel.
La faim progresse dans le monde pour la troisième année consécutive. C'est la conclusion d'un rapport de 5 agences des Nations Unies qui mettent en cause la variabilité du climat comme l'une des causes principales des graves crises alimentaires. L'an dernier, 821 millions de personnes dans le monde étaient en situation de manque chronique de nourriture, soit une personne sur 9 à la surface du globe. Le Premier ministre hongrois dénonce le chantage de l'Union européenne devant le Parlement de Strasbourg, où un débat tendu s'est engagé entre les eurodéputés député Viktor Orban lui-même. L'Europe doit décider demain si elle enclenche une procédure visant à sanctionner Budapest pour violation grave des valeurs de l'Union. 150 des 400 vols Ryanair prévus demain au départ et à destination de l'Allemagne supprimés en raison d'un mouvement de grève. Les pilotes et le personnel navigant demandent de meilleurs salaires et conditions de travail. La direction de la compagnie aérienne irlandaise les menace de suppression de postes si le mouvement se poursuit. L'homme suspecté d'être l'auteur de l'attaque au couteau de dimanche soir dans le nord de Paris, 7 blessés dont 4 dans un état grave, ne se souvient de rien. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Il a été brièvement entendu aujourd'hui. La piste terroriste n'est pas retenue à ce stade de l'enquête. Et puis Leclerc lance son offre d'électricité à prix réduit après-demain. L'enseigne compte garantir pendant un an un rabais de 10% à 20% par rapport aux tarifs réglementés d'EDF. Elle souhaite conquérir 3 millions de clients d'ici 2025.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Édouard Philippe a invité les députés La République En Marche lors de son discours à se consacrer à l'essentiel. Pour le Premier ministre, l'Élysée et Matignon, c'est même combat.
On cherchera
a enfoncé des coins entre les membres du gouvernement, ou plus incroyable encore, des nuances entre le président de la République et le Premier ministre. Permettez-moi de vous dire que ceux qui s'avanceront dans son chemin ont intérêt à prendre des provisions, car ils seront bien seuls et ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Marion Mourgue, ça méritait d'être précisé, quelqu'un en a douté?
Oui, on en a tous un peu douté et il y a eu quelques éléments au moment des hésitations sur le prélèvement à la source et les deux têtes de l'exécutif n'étaient pas forcément sur la même ligne puisque Emmanuel Macron a exprimé ses doutes publiquement alors qu'Édouard Philippe était plus en soutien de la réforme. Ensuite, Édouard Philippe a quand même intégré que pendant 5 ans, s'il reste 5 ans à Matignon, il n'y aurait pas d'espace pour lui et que donc c'était pas la peine, comme d'autres de ses prédécesseurs, d'essayer de s'opposer au chef de l'État et de construire quelque chose, en tout cas de construire l'après depuis Matignon. Donc il l'a intégré et à partir de là, on le sent plutôt en forme.
Aurélie Trouvé, vous pensez qu'il n'y a pas vous savez, l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le président et son premier ministre?
Bon, je pense qu'ils ont une certaine cohérence. Et je pense que ça correspond aussi à une façon de faire que vous avez qui est de plus en plus ressentie par les Français, qui est un appareil très centralisé, très hiérarchique, très autoritaire. Et bon, moi, je voudrais élargir le propos en disant qu'en fait, d'un social-libéral éclairé, il passe de plus en plus de mon point de vue pour ce qu'il est, Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement néolibéral et autoritaire, et avec une centralisation du pouvoir, etc. Et il faut pas. Je pense qu'effectivement, il y a cette alliance et cette cohérence globale qui est une transformation profonde de la société pour la conformer au canon du néolibéralisme économique. Et ce qui est en train de se passer, toutes les réformes qui ont été mises en œuvre depuis un an, c'est quand même énorme en termes de changement sur l'attaque des services publics,
vous
sur l'attaque de la protection sociale.
Il y a quand même quelque chose qui change dans ce pays d'une façon ou d'une autre.
Oui, oui. Tout à fait. Même et si et, vous y êtes et opposé. Pour quelque chose qui est clairement aujourd'hui, je pense, de droite, alors qu'il avait joué sur le en même temps de gauche et de droite. C'est un néolibéralisme économique autoritaire clairement affiché de droite. Et ça, je pense, c'est de plus en plus compliqué pour lui de le dissimuler.
Alors messieurs, je vais vous solliciter sur le feuilleton qui est venu se rappeler au bon souvenir d'Emmanuel Macron. C'est l'affaire, évidemment, Alexandre Benalla, qui a assuré lui-même à France Info aujourd'hui qu'il ne se rendrait pas à une convocation devant les parlementaires avant la fin de l'information judiciaire qui le vise. Or, l'ex chargé de mission de l'Élysée, comme on le dit, a été convoqué pour une audition devant la commission des lois du Sénat. Son président, le sénateur Les Républicains Philippe Bas, s'est montré particulièrement ferme sur France Info.
Il n'a pas à décider lui-même s'il doit venir ou pas venir. Il est convoqué et les textes sont très clairs. Celui qui ne vient pas à la convocation d'une commission d'enquête est passible de 2 ans de prison et d'une amende de 7 500 €. Celui qui ment est passible de peine plus grave.
Voilà, ça méritait d'être rappelé par Monsieur Philippe Adris Aït Youssef. Que dites-vous sur ce retour éventuel de Monsieur Benalla devant les commissions d'audition d'enquête parlementaire?
Dit, en fait, il a exprimé son souhait d'une certaine manière, qui est de dire je réserve mes réponses pour le juge judiciaire, bien qui s'est justifié devant un certain nombre de médias. Après, ce que je constate, en tout cas quand j'entends le président de la commission des lois, c'est que depuis le début, on sent bien que à la fois la commission à l'Assemblée nationale et au Sénat est complètement à côté du vrai sujet. C'est-à-dire que on part d'un sujet premier qui est celui de la manifestation du 1er mai à aujourd'hui des avantages dont on voudrait savoir comment ils ont été octroyés. On n'est plus sur le vrai sujet
vous
premier.
Vous pensez que les commissions d'enquête cet été n'ont pas épuisé le sujet complètement ou...
À la fois, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'à la fois épuiser le sujet et, il fait bien de le rappeler, sur les mensonges. Il y a eu des mensonges. Il n'y a pas eu de poursuite. On a beaucoup parlé de l'article 40, mais simplement, le législateur n'a jamais voté l'article 40, l'obligation, par exemple, pour un fonctionnaire de dénoncer des faits. Il n'y a jamais eu le législateur n'a jamais voté de sanction pour la non-application de l'article 40. Donc, on épuise totalement aujourd'hui un sujet qui, pour moi, à mon sens, n'intéresse plus forcément les Français.
Attendez, c'est intéressant. Juste un mot encore. Vous en avez ras-le-bol ou quoi de l'affaire Benalla? Sincèrement.
Franchement, oui. Ah non, franchement, oui. Ah oui, non, mais franchement,
j'en ai ras-le-bol. Il y a quand même des
questions
qui restent.
Ah oui, sur que le président de la République ait accordé une voiture à Alexandre Benalla avec un salaire. Je vois pas ce qu'une commission des lois, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale, va investiguer sur un sujet qui est du
ressort. Il y a des questions qui restent sans réponse. Et Monsieur Benalla est le premier à avoir dit dans une interview au Monde qu'il pouvait se rendre devant cette commission. Et il est quand même normal que les parlementaires qui ont été élus puissent l'entendre et que ce ne soit pas que les journalistes qui, là-dessus, n'ont pas toutes les questions techniques.
Il n'a pas dit non.
Pardon ?
Il n'a pas dit non.
Il n'a pas dit non, oui.
Il n'a pas dit non.
Bruno Cotterêts.
Alors Benalla, c'est, je dirais, c'est une sorte de sparadrap maudit pour Emmanuel Macron. Il n'arrive pas à s'en débarrasser.
C'est une mauvaise nouvelle hein, que ça vienne devant les juges. Nouvelle, je crois qu'il y a une date, c'est le 28 septembre.
C'est une mauvaise nouvelle dans cette rentrée qui est compliquée, où Emmanuel Macron essaie de reprendre la main sur son image et sur les dynamiques d'opinion. C'est évidemment... très mauvaise nouvelle de voir à la fois l'affaire revenir et puis à nouveau Benalla qui fait à nouveau parler de lui sur le fond. Je pense qu'effectivement la commission d'enquête, moi je pense qu'elle est plutôt au contraire assez dans son rôle d'aller assez loin, car quand même le côté très spectaculaire de ce qui s'est passé le 1er mai n'est pas totalement anodin. Voir un collaborateur direct du président de la République qui d'un seul coup déborde comme à ce point-là est quand même tout sauf anodin dans une démocratie. Et une commission d'enquête, c'est vrai qu'une fois que une fois qu'elle a commencé ses travaux, c'est très difficile en même temps de lui dire où est-ce qu'elle doit s'arrêter de regarder, car le parlementaire est dans son rôle.
Elle est souveraine. Elle est souveraine.
Mais oui, elle est souveraine et le parlementaire est aussi dans son rôle d'être le porte-voix du citoyen qui se pose un peu toutes ces questions lui aussi.
Bruno Cotterêts, j'aimerais que vous rebondissiez sur le.
Pourquoi pas le sénateur ?
Que dites-vous, Drissaï Toussaint ?
C'est tout le sujet, c'est vrai. D'avoir une vraie réflexion autour de cette manifestation du 1er mai où des violences ont été commises et dont il appartient à l'autorité judiciaire qui est seule compétente pour investiguer sur des faits comme ça.
Alors ça
après, effectivement, le statut de l'individu, et moi je suis complètement d'accord, le statut de l'individu et les avantages qu'il aurait eu, c'est, à un moment donné, conduisent à des parlementaires peut-être à investiguer là-dessus.
Je comprends la position du juriste, mais le citoyen Driss Aït Youssef a manifesté une réaction assez intéressante. Bruno Cotterêts, donnez-moi votre avis. Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de l'opinion à propos de cette affaire, une sorte de défait ras-le-bol, comme on peut le constater sur des tas d'autres sujets?
C'est clair que si on retrouvait la même intensité médiatique qu'on l'a connue au mois de juillet, on pourrait avoir un sentiment de saturation. Ça, c'est certain. Qui, je crois, a commencé à l'époque déjà à se manifester. Par contre, si les nouvelles auditions montraient de nouveaux éléments, qu'on découvre qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été totalement éclairées au mois de juillet, que de nouveaux éléments apparaîtraient, etc., là peut-être que ça peut donner aux citoyens le sentiment que le Parlement joue son rôle dans cette commission d'enquête.
Je veux bien qu'à un moment donné que le Parlement fasse la lumière sur la journée du 1er mai, mais c'est surtout au juge judiciaire d'enquêter dont il est saisi pour enquêter sur des faits de violence dont il a été mis en examen. Donc c'est juste ce que je veux dire. Après sur les avantages à côté. Bon, je veux bien investiguer sur la voiture, comment il l'a eue, est-ce qu'il a beaucoup roulé avec. Mais je ne suis pas certain que ce soit le
juste du point de vue du Parlement. Du point de vue de l'opinion, il n'y a pas de retournement à attendre. Oui. Le dommage est fait. Il n'y aura pas de retour.
Il y a des interrogations sur le rôle qu'il pouvait exercer au nom du président de la République, et y compris en termes de sécurité. Donc c'est aussi bien qu'il y ait des réponses. Et tout à l'heure, vous parliez de la ZAD en disant les citoyens peuvent avoir un recours contre le tribunal administratif. Là aussi, ça fait partie de ce qui existe. Et donc, c'est bien que ça ait lieu.
Et quelque chose me dit que nous allons régulièrement en reparler. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Un rapport parlementaire remis au Premier ministre aujourd'hui. Il propose de donner plus de moyens à la sécurité privée, mais aussi d'armer obligatoirement les policiers municipaux. Moins de la moitié, 44%, sont aujourd'hui munis d'une arme à feu. Un incendie toujours en cours à Chamonix, en Haute-Savoie. Le feu a pris en début d'après-midi au niveau de la gare du téléphérique des Grands Montées. Il n'y a pas d'eau sur place. Les opérations de secours prennent donc du temps. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés et des moyens acheminés par hélicoptère. Plus d'un tiers des Français confrontés à une situation de pauvreté en 2018. C'est ce que dit le baromètre annuel du Secours populaire qui parle notamment de la précarité alimentaire. D'après l'association, un Français sur cinq estime avoir des difficultés à se procurer une alimentation saine pour assurer trois repas par jour. Les États-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan Florence. Il devrait atteindre les côtes américaines jeudi. Les autorités redoutent qu'il se renforce d'ici là en un ouragan majeur extrêmement dangereux. L'état d'urgence est décrété dans quatre États: la Virginie, la Caroline du Nord et du Sud et l'État de Washington. Et puis une minute de silence à 8h46 et 9h03 précise à New York, à l'heure où les avions avaient frappé les tours jumelles du World Trade Center il y a 17 ans. Les États-Unis ont rendu hommage auprès de 3000 personnes mortes dans les attentats du 11 septembre 2001.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le Ouigo, le TGV low cost, fête ses 5 ans. Annonce faite aujourd'hui, les TGV low cost, les Ouigo, partiront désormais pas seulement de Disneyland Paris, mais également de la gare de Lyon. C'est une annonce faite par le patron, le directeur général des Ouigo, Stéphane Rappeba, qui affiche ses ambitions.
L'objectif, c'est de multiplier. On a fait x9 en termes de trafic depuis 5 ans, et c'est encore une fois de le doubler. Et le doubler, c'est en conservant ces Ouigo qui partent des gares périphériques pour rejoindre les villes françaises, mais c'est aussi de s'ouvrir à Paris, encore une fois, pour atteindre ces 26 millions de clients en 2021.
Voilà, Stéphane Rappebach, 26 millions de voyageurs en 2021, le quart du trafic de la grande vitesse aurait l'y trouvé. Quelque part, on ne les avait pas vus arriver, ces trains low cost, pendant le débat de la réforme ferroviaire.
Oui, alors la question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bon, moi, je considère que...
Attention à ce que vous allez dire.
Oui, que c'est le risque d'une... D'abord, c'est la création d'une troisième classe. Après la première, deuxième classe TGV, il y a le Ouigo. C'est quand même un confort très relatif. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà pris le Ouigo. Moi, j'ai déjà fait expérience. Bon.
Oui,
voilà. Je l'ai trouvé plus confortable que les autres. Mais je n'ai pas fait la différence.
Et par ailleurs, par exemple, en termes de sécurité, pour le même nombre de kilomètres parcourus, il y a moins de contrôle. Enfin, il y a tout un tas... On paye tout bagage supplémentaire. Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de guichet pour annuler, changer son billet,
mais,
etc.
Mais des prix à 10 euros.
Alors voilà, j'y arrive.
Pour des familles pauvres qui n'ont pas le loisir de voyager,
j'y arrive
c'est pas mal quand même.
Bon, déjà, il y a la création quand même de trains à deux vitesses, quoi. Il y a le TGV pour ceux qui en auront les moyens et le Ouigo pour les autres. Et si... Alors évidemment, pour se dire c'est une bonne nouvelle, ça rend plus attractif, plus accessible le train. Mais moi, je pense que c'est que pour un vrai progrès écologique, il faut donner envie de prendre le train. Donc il faut garder le même niveau de confort, voilà. Mais par contre, il faut évidemment que l'État y mette des moyens. Et c'est là qu'on parle de planification écologique. Il faut que l'État, veut vraiment s'attaquer à la question écologique, on y revient, eh bien, il investisse bien davantage dans les transports en commun et notamment dans la SNCF. Il y a eu tout un tas d'erreurs aujourd'hui qui ne sont pas prises en charge par l'État, mais qui relèvent de la direction de la SNCF, qui laissent des dettes monumentales à la SNCF. Ça demande des investissements, notamment dans les petites lignes. Et je pense que ce n'est pas en réduisant le niveau, la qualité, qu'on résout le problème et qu'on développe le transport en commun.
Marion Mourgue, vous signez pour ces trains, finalement, à bas coût pour des familles modestes.
Oui, enfin, on l'a vu avec l'avion. Je pense qu'on a tous pris autour de cette table un avion low cost. Alors, c'est pas toujours très confortable sur des longs courriers, mais en même temps, ça permet de voyager de manière moins chère. Donc ça, c'est déjà un avantage que tout le monde puisse le faire. Et puis ensuite, il faut aussi dire qu'il y a l'ouverture à la concurrence au niveau européen et que donc, de fait, il va y avoir d'autres offres qui seront faites. Et c'est une manière de s'aligner aussi là-dessus.
Exactement. Driss Aït Souceff, vous entendez les doutes, légitimes sans doute, qu'exprime Aurélie Trouvé. Est-ce que c'est une bonne chose, la mobilité low cost, en l'occurrence c'est Ouigo, c'est Hop pour Air France. Que dites-vous ce soir là-dessus, vous?
Je dis simplement que si ce n'est pas la SNCF qui le fait, ça sera très certainement un autre opérateur privé qui le fera. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement dans une certaine forme, à partir de 2021, l'ouverture à la concurrence imposée par l'Union européenne, l'une des garanties, en tout cas contrepartie de l'État à la récupération, l'absorption de la dette de 47 milliards, c'est aussi que la SNCF puisse à un moment donné se moderniser d'une certaine manière, être plus compétitive. On l'a vu avec la fin du statut des cheminots. Après, la question qui se pose évidemment, c'est est-ce qu'avec le Ouigo, la SNCF va pouvoir trouver un modèle économique intéressant tout en payant, parce que demain, elle va devoir s'acquitter des frais de roulage, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux ferrés transfrontaliers.
D'après la direction de Ouigo, le système, en fait, l'offre serait à l'équilibre, voire rentable à partir de 2021, si j'ai bien compris les annonces qui étaient faites. Bruno Gautresse, vous êtes surpris par cette montée en puissance de cette offre un peu inédite, finalement?
Non, pas du tout, parce qu'on voit une évolution un peu plus générale, qui est une évolution vers le développement de nouvelles formes de mobilité. Et cette thématique, ne l'oublions jamais, est une des thématiques de départ, même peut-être assez centrale, dans le discours d'Emmanuel Macron. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, c'est aussi celui qui a développé ultérieurement les Ouibus. Oui. Et on voit qu'effectivement, il y a tout un spectre qui est en train de s'ouvrir en France sur les moyens de la mobilité, le désenclavement. Lorsqu'Édouard Philippe parle de là où Emmanuel Macron, de la société d'émancipation, tout ça n'est pas déconnecté de toutes ces questions de transport. Donc on ne peut pas être surpris totalement du développement de cette démocratisation de l'accès au transport. Effectivement, c'est comme le low cost dans les matières d'aviation. Je pense que le fait que le Ouigo arrive au cœur de Paris, à la gare de Lyon, est une donnée tout à fait essentielle, car elle va changer un des obstacles qui se posent aux utilisateurs potentiels du Ouigo, qui est le temps de trajet qu'il faut rajouter pour venir de Marne-la-Vallée jusqu'au cœur de Paris.
C'est assez loin, j'ai pratiqué déjà.
Voilà. Donc ça va changer sans aucun doute un peu les choses.
Ouais. Je pense que l'un des enjeux majeurs, j'ai envie de dire, pour la SNCF, pardon, excusez-moi, c'est d'occuper le terrain, mais vraiment de occuper le terrain avec des offres à plusieurs niveaux avant qu'effectivement les concurrents italiens, lorsqu'ils vont arriver, ou anglais, ça va être très compétitif.
Aurélie, trouvez-vous 5 secondes.
Je dis oui à la baisse des tarifs SNCF pour développer le transport en commun, mais ça ne doit pas se faire comme dans Ouigo par la baisse de la qualité du transport en commun.
Allez, la une du Figaro demain, Marion Mourgue.
On revient sur le cri d'alarme des pompiers qui sont de plus en plus agressés.
Merci à vous Marion Mourgue, merci Aurélie Trouvé, merci également à Bruno Cotteresse et à Driss Aït Youssef, tous les quatre d'avoir été les invités des Informés de France Info. Je vous retrouve pour ma part demain soir pour une nouvelle édition. Merci, bonne soirée.